19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour à tous, chers amis. Oh là là, quel plaisir de vous retrouver. Vous savez, en plus, ça me fait plaisir parce qu'on retrouve la tranche du soir, même si on kiffe le matin aussi. Hein. Mais la tranche du soir est particulièrement, évidemment, je sais que vous, une partie des auditeurs nous ont manqué. Bah oui, nous revoilà, nous revoici, c'est parti. Les informés retrouvent la tranche de 19h-20h. C'est parti. Allez, et je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd, au fait. Hein. Bonne fête à vous tous, évidemment. Et puis, vivez-la avec plein de bonnes choses, en souhaitant, évidemment, qu'une seule chose, le mot paix. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Au sommaire de cette émission, vous savez quoi, nous allons parler de plusieurs sujets. D'abord, on va démarrer exceptionnellement avec le Quad Neuf. Pascal Boniface viendra nous livrer son Quad Neuf avec son billet d'humeur dès l'ouverture, dans une poignée de secondes. Ensuite, les débatteurs influenceurs vont confronter leur point de vue sur plusieurs sujets. On parlera, vous savez quoi, de cette mer, la mer justement en Bourgogne qui a été mise en examen. Nous en parlerons tout à l'heure et placée en détention. Elle sortira donc innocente, hein, certains disent ça, mais bon, trafic de stupéfiants, non, parlerons, hein, ça fait beaucoup évidemment pour une maire d'une ville, nous en parlerons tout à l'heure. Ensuite, nous parlerons aussi, vous savez quoi, d'une info qui est tombée tout à l'heure, Emmanuel Macron qui va annoncer des relocalisations industrielles pour renforcer la souveraineté de la France. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Eh bien, nous en parlerons. Attaque massive de l'Iran contre Israël, elle est imminente, préviennent les Américains, clochette! Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on approche les élections aux États-Unis, hein? Vous savez quoi? Faire peur au monde. Voilà. Quand on fait peur, vous savez ce que ça génère derrière. Nous parlons aussi, vous savez quoi, de cet ado tué à l'arme blanche à Romans-sur-Isère. Il y a une série quand même, hein, vous savez, de violences comme ça qui se déroulent, mais en peu de temps, en si peu de temps, on va tenter de comprendre et de décrypter ce qui se passe. 0153483000, c'est vous, votre standard, votre numéro. Vous nous appelez et en toute liberté d'expression et vous nous livrez votre témoignage. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, j'accueille tout de suite Pascal Boniface qui est géopolitologue mais surtout le directeur fondateur de l'Institut Leris. Bonjour mon cher Pascal.
Bonjour Adil.
Comment ça va?
Bah, très bien, content d'en trouver la tranche respirale, effectivement.
Effectivement, moi aussi, on est tous très très contents. Allez, je vous lance tout de suite parce que vous allez nous parler de la relation Amérique. Tiens, justement, on en parlait, Israël, c'est votre billet d'humeur, on vous écoute.
Oui, on peut se demander s'il n'y a pas de l'eau dans le gaz entre les États-Unis et Israël. L'alliance, elle est solide comme le fer. Les États-Unis sont le protecteur d'Israël, ils l'ont toujours défendu. Et ça fait à peu près 30 ans qu'aucun président américain n'a fait de réelle pression sur Israël, y compris Obama, d'ailleurs, qui ne pouvait pas grand-chose, qui a même augmenté l'aide que les États-Unis accordent à Israël. Israël n'est pas un État du tiers-monde. Israël n'est pas un État en voie de développement. Et pourtant, les États-Unis donnent chaque année 3,8 milliards de dollars à Israël. Ce qui est un peu étonnant dans cette affaire, c'est que normalement, quand on protège, quand on aide un pays, on a de l'influence sur lui. Eh bien, dans le cas israélien, c'est l'inverse. C'est Israël qui a de l'influence sur les États-Unis, mais les États-Unis en ont assez peu. Ça fait des mois que le président Biden demande à Israël de modérer leur comportement, d'épargner les civils à Gaza, et vous voyez le résultat, il n'est pas écouté. Alors là, il a un peu haussé le ton, parce qu'il y a eu 7 humanitaires d'une association, d'une ONG américaine qui ont été tués, et le patron de cette ONG est un ami personnel de Biden. Et donc là, Joe Biden a dit que si cela continuait comme ça, il remettrait en cause l'aide accordée par les États-Unis à Israël. Et il a demandé un cessez-le-feu, mais on ne voit toujours rien venir. Et donc il y a un mouvement, Biden est coincé, ses électeurs le fuient de plus en plus, et la jeunesse américaine, notamment dans les universités, tous les jeunes démocrates sont effarés par les images qu'ils voient de ce qui se passe à Gaza. Et il lui reproche de soutenir inconditionnellement Israël. Biden proteste et en fait il perd un peu sur les deux tableaux. Du côté israélien, il n'est pas suffisamment en soutien d'Israël puisqu'il ose critiquer Israël. Et du côté des démocrates, des jeunes, il proteste. Mais concrètement, il continue d'envoyer des armes. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? On sait que l'aide humanitaire à Gaza n'arrive pas. Les Américains envoient ça par avion. Mais un avion, ça remporte ce que peut emporter un camion. Mais en fait, il faudrait forcer. Pourquoi Israël, y compris en Égypte, bloque l'aide humanitaire? Et pourquoi les Américains continuent d'envoyer des armes à Israël, malgré qu'il y ait des armes qui bombardent Gaza? Et donc d'un côté il y a l'aide humanitaire, de l'autre on envoie les armes. C'est quand même assez contradictoire. Il serait temps qu'il y ait une réelle clarification, parce que pour le moment, finalement, on voit que la crédibilité américaine est en jeu dans cette affaire.
Merci infiniment mon cher Pascal Boniface. Quel brillant billet d'humeur. Bravo. On se retrouve jeudi prochain, même horaire.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. Partagez. Prenez soin de vous d'ici là.
Merci Adil, bonne fin d'émission.
Bonne fin d'émission, et je le rappelle, hein, Pascal Boniface qui est le patron fondateur de l'Institut Léris, mais également aussi, allez vous procurer d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, hein, c'est aussi ça, allez vous procurer tous ces ouvrages que vous trouvez en ligne, effectivement, donc n'hésitez pas. C'est parti tout de suite pour le face-à-face.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face avec du beau monde ce soir autour de ce plateau. Tiens, il y en a un qui est coincé dans les bouchons, c'est Hassan Barak. Il reviendra nous rejoindre tout à l'heure. Gamal Abina, bonjour, le porte-parole du mouvement MDC. Comment ça va, Gamal Abina? Bonne fête à vous.
Bah, bonne fête à vous aussi, bonjour, et puis merci pour l'invitation encore une fois.
Bah oui, vous êtes là tous les jeudis quasiment.
Ouais, quasiment, je suis abonné.
Bah oui, vous êtes venu accompagner en plus.
Absolument, quelqu'un de très très, je pense, une future... Ministre. Une future flash, non, peut-être, pourquoi pas, mais ouais. Une future flash intellectuelle qui pourra peut-être nous apporter.
Dans quel domaine?
Dans la science politique. C'est la quelqu'un science qui forme en Sciences Po et qui
on
a,
va
qui a
forcément
du talent.
Finir dans la politique, hein. Ça, c'est sûr, non?
On verra.
On va ouvrir le micro. Qu'est-ce qui vous intéresse, le monde politique ou le monde du business quand on fait Sciences Po?
Quand on fait Sciences Po, on peut tout faire, en fait. On n'est pas obligé de faire du business ou de la politique, mais j'avoue que la politique est l'un de mes centres d'intérêt.
Ça me rappelle Richie Thibault.
Il y a un peu de ça, oui, c'est mieux.
C'est tout de suite, hein. C'est Richie Thibault en féminin, en jeune fille.
En plus, c'est du gentil.
Bon courage et bonne chance.
Merci.
Paul, comment ça va, mon cher Paul?
Bah, écoutez, ça va et vous?
Oui, très bien, ça va. Tout va bien pour vous?
Bon,
vous êtes analyste politique, hein?
C'est ça.
Je ne sais pas ce qu'on y met derrière ce mot, vous savez, parfois. Hein.
Beaucoup de choses.
Oui, beaucoup de choses.
J'ai pas fait Sciences Po, mais c'est un peu pareil. Ça permet de faire un gloubi-goulba et...
Vous avez fait autre chose?
Après,
non, vous avez fait autre chose. Non, Paul, vous avez fait autre chose?
Oui, mais moi, j'ai étudié à l'étranger. J'ai fait mes études à Londres, en Russie. À Moscou.
Vous parlez le russe alors?
Ah, malheureusement, je le perds un peu, vous savez, c'est pas très tendance aujourd'hui en France de parler russe. Hein.
Ouais, c'est pas très tendance. Pareil.
Ah, moi, la tendance, je m'en fiche, mais non, malheureusement, je le pratique pas assez.
Bon, bah, Paul-Antoine, il lâche rien. Hein.
Ou jamais.
Ouais. À vos côtés, c'est un banquier d'affaires, lui, hein. Il est toujours dans Parmons et Parvaux. Ça va, Karim?
Ça va. Élu.
Élu, oui, à Bondy.
Ouais.
Vous l'avez arraché, vous avez raison. Le mec, en plus, il tenait. Vous allez voir, je serais pas étonné.
J'étais sorti de la politique, le destin m'a ramené.
S'il se présente pour être maire.
Non, mais j'en étais sorti, le destin m'a ramené, c'est étonnant. Mais c'est.
Mais vous savez qu'on n'en sort pas comme ça.
Bah, apparemment non, puisque j'ai tout fait pour
pas y être. Mais ça vous manque, vous dites nous la vérité, ça vous a manqué.
Et il y a une
place. Ah, même ici, vous faisiez de la politique à chaque fois, vous tapiez sur tout, etc. On voyait que ça vous a manqué, Karim.
Il y a une place de maire qui va se libérer en plus.
Donc voilà, il mérite une clochette. Solal. Tiens, je suis content de retrouver Solal. Il est là, Solal, notre
ami.
Ça va, Solalou? Ah, je suis content de le retrouver, mon Solalou.
Juste pour vous dire, c'est mon collègue, j'ai la nièce de ma femme est en licence de russe.
Ah bon?
Je lui ai dit, ça a peut-être pas choisi ton moment. Il dit, si, bon.
Mais c'est pas en
on
vogue.
Verra bien.
C'est pas en vogue. C'est pas en vogue en ce moment.
C'est rare,
pas en
mais ouais, c'est le cas. Ouais.
Vous êtes plus banquier d'affaires ou plutôt politique? Les deux.
Je suis les deux là.
Attention, c'est... quand on mêle les deux, hein. C'est là. Où c'est fini. Les affaires tournent
le
mal. Je vous le souhaite pas.
La finance, c'est pour vivre, et la politique, c'est pour mettre en œuvre, mes convictions.
Voilà. J'aime bien, parce que quand c'est le banquier d'affaires qui vient de temps en temps, il vient en costume cravate. Et quand c'est Lily, il vient tranquillou.
C'est la première fois que je vois comme ça.
Moi aussi, c'est la première fois. Et tout ce qu'il nous a dit. Non, mais c'est Lily qui parle.
Ça sent les poches trouées.
Allez, messieurs. Quoi, je voudrais juste, vous savez quoi, même si je ne vous ai pas envoyé ce programme, parce que j'aurais dû vous prévenir, parce qu'il y a notamment MeToo à l'hôpital. Vous savez, c'est Patrick Leloup, vous connaissez Patrick Leloup quand même, l'urgentiste.
Ah oui, oui, oui.
Bah, l'urgentiste, là, c'est une nouvelle qui vient de tomber là récemment, là, tout de suite. Là,
c'est pas Peloux, son nom?
Peloux, pardon, Peloux, j'ai dit
Peloux,
quoi
ouais,
Leloup,
voilà.
Leloup, non, c'est Peloux, Peloux. Mmh. Ah, et les jeunes femmes qui témoignent, elles ne sont pas seules, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une publication d'une grosse enquête dans Paris Match qui est sortie. Notamment une infectiologue Karine Lacombe qui accuse l'urgentiste Patrick Peloux alors sur les violences sexistes sexuelles qui se libèrent dans le monde médical. Alors la praticienne, elle dit, vous savez quoi, elle ne dit vouloir aider à faire bouger le système, et alors lui par contre il s'est retrouvé dans une ambiance qui ne l'arrange pas du tout. Beaucoup d'agressions sexuelles lui collent désormais à cet urgentiste Patrick Peloux, et on l'accuse complètement d'harcèlement sexuel et moral. Est-ce qu'on peut faire un tour de table? MeToo revient. Hein, c'est de façon décomplexée. Mais ce qui me fait sourire dans cette histoire, c'est que c'est Patrick Peloux qui se retrouve un peu évidemment trempé dans cette affaire.
Bah, c'est amusant parce que c'est quand même de...
Pourquoi c'est amusant? Vous avez droit à une clochette. Hein, on dit... Non, dis-moi tout, dis pas c'est amusant, j'aime bien. On commence pas par sa phrase, c'est amusant, mon cher Gamal Abina.
C'est ironique, c'est mieux.
Ah, ironique, oui.
Voilà, donc c'est ironique parce que c'est quand même l'homme qui donnait des soins à tout le monde et qui finalement, on va en prendre. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est que je sais pas si vous vous rappelez les Inconnus, il y a un sketch qui se passe à l'hôpital dans lequel on voit à un moment donné un médecin avec une infirmière dans un placard. Il faut savoir que, et si vous connaissez un peu le milieu hospitalier, c'est que malheureusement, ils sont très décomplexés vis-à-vis du corps, puisque pour eux, le corps, c'est une mécanique. Et c'est vrai que souvent, on entend des affaires dans les hôpitaux qui n'arrêtent pas dans des pièces fermées ou autres. C'est presque un rituel. Et il se trouve que ça devait un jour arriver, parce que c'est vrai que cette méthode-là, on avait le sentiment que c'était consenti. Mais parfois, ce n'était pas consenti. Ce qu'on appelait la promotion canapé, ça existait partout, et à l'hôpital aussi. Donc je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et que je pense que ce monsieur va devoir peut-être répondre de choses un peu graves.
Beaucoup, beaucoup de femmes témoignent qu'il y aurait des mains baladeuses.
Ah ben ça.
C'est horrible quand même, franchement. Non mais, moi, ce qui me fait rire, c'est que le mec, il donnait des leçons. Ouais, vous souvenez ou pas?
Et c'est toujours comme
il
ça.
Il était sur les plateaux télé, il donnait des leçons
les
à tout le monde.
Donneurs de leçons.
Pas avec cette terrain de
mais qui disait à l'Assemblée nationale qu'il n'y avait pas de compte à l'étranger.
Les yeux dans les yeux.
Non mais, je lance la pause parce que cela me fait signe et on revient tout de suite après. Ouais, c'est l'heure de la pause, les amis. Ouais, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Ah, les informés, vous le savez, c'est ici que ça se passe. 01 53 48 3000 aussi. Je ne sais pas si le jingle des auditeurs est prêt, mais je voudrais les entendre aussi.
01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
Quand je vous dis que Solal est là, le réalisateur, il est là, Solal. Ah là là, il est bon, Solal, je l'ai connu tout jeune, là, timide, etc. Le voilà maintenant le patron de la réalisation. Ah, le mec, ça y est, il a grandi, ça y est, il rigole plus. Là, il va nous mettre des patates, là, bientôt, vous allez voir. Voilà, c'est ça, les patates. 19h18, 19, même 20. Si vous venez de l'Orange, vous savez quoi? J'aimerais juste particulièrement faire... Vous savez qu'on a une fidèle auditrice. Il y a beaucoup d'auditrices, d'auditeurs, etc. Mais il y en a une que je voudrais, à qui je voudrais, évidemment, rendre hommage ce soir et lui adresser une bonne fête de l'Aïd. C'est Madame Mounira. Madame Mounira se reconnaîtra et je lui fais une dédicace spéciale, Madame Mounira. Voilà. Et merci pour votre fidélité et d'ailleurs... pour les petits messages que vous nous avez envoyés ici aux informés. Merci à vous. Hassan Bembarek, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Les transports, c'est horrible.
C'est vrai.
Écrivez au conseil régional.
Je ne pense pas que ça va changer grand-chose.
Madame Pécresse, vous savez.
Écoutez, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Mais bon.
Vous êtes toujours à l'heure, vous. Là, ça, vous m'avez surpris, là.
Oui, mais bon, s'il y a des problèmes dans le métro, il y a des problèmes dans le métro.
C'est ça, exactement. Paul, Antoine, je vous redonne la parole parce que je voudrais qu'on fasse un tour de table sur Paul. Sur Paul.
Vas-y. Plutôt bien.
Alors Patrick Pelou, l'urgentiste qui se retrouve dans la tourmente.
Non mais alors, il y a un côté où je suis d'accord avec Gamal, c'est que tous ces donneurs de leçons, quand ils tombent dedans, voilà, on va le reconnaître, il y a un côté où on est un peu content. Après, c'est atroce. Alors, il y a la présomption d'innocence, évidemment. Après, si c'est vrai, et ça a l'air d'être le cas, c'est atroce. Et je pense qu'en fait, il y a un changement de mentalité. Parce que parfois, je me pose la question, est-ce qu'il y en a plus maintenant d'attouchements, de viols, etc., qu'avant? Je suis pas forcément sûr. Oui, peut-être un peu plus, mais je suis pas forcément sûr. Je pense que avant c'est ce qu'on appelle la promotion canapé, et c'est ce qui maintenant n'est plus accepté. Et je pense que les filles aujourd'hui, et ça c'est très bien, disent non. Donc
il est mis en examen.
Oui, non, mais c'est pour ça. Donc, pour moi, c'est très bien. Il y a une libéralisation totale de la parole des femmes. Ça, je trouve ça plutôt bien. Après,
mis en examen, non, plutôt mise en cause en ce moment.
Il n'est pas mis en examen. Après,
plutôt.
Il faut pas, je trouve, que cette libéralisation de la parole, elle aille non plus trop loin. Faut pas que ça touche des innocents. Donc, faut quand même toujours faire attention. Pour moi, on joue un peu avec le feu. C'est des sujets où faut prendre le temps. Faut pas être faut pas tout de suite juger les gens, etc. Je pense qu'il faut attendre un peu. Quand je dis juger, c'est nous, le tribunal médiatique. Faut attendre un peu. Il y a une présomption d'innocence. On verra ce qui se passe. En tout cas, il y a une libéralisation de la parole des femmes. Et ça, je trouve ça très bien.
Libération de la parole des femmes. C'est quoi? Je voudrais entendre les auditrices particulièrement. Ouais, voilà. Est-ce qu'elles vivent dans leur quotidien?
Ouais,
justement, est-ce que dans leur quotidien, elles subissent ce type de harcèlement moral, et propos sexistes, violences morales, harcèlement, etc. Est-ce que vous le vivez, mesdames, parfois, et est-ce qu'il y a des sous-entendus? 01 53 48 3000. Paul
Antoine. Juste pour finir, j'imagine, parce que moi ça m'est jamais arrivé, c'est extrêmement difficile. C'est faut être très courageuse pour oser parler et aller contre votre patron, et encore plus quand votre patron est un chirurgien comme ça qui est connu, et reconnu et surconnu en France entière. C'est David contre Goliath. Donc vraiment, c'est bien.
Karim Alouache.
On
connaît ça aussi en politique, hein, des mythos.
D'abord, c'est très très bien que la parole se libère et qu'on puisse savoir. Moi, je pense pas nécessairement qu'il y en a plus, sauf que maintenant on en parle et on le sait. Il y a aussi le phénomène médiatique des réseaux. Aujourd'hui, une info, elle sort, elle a déjà fait le tour du monde en quelques secondes. Avant, moi, je pensais qu'avec mes transactions qui mettaient un dixième de seconde pour arriver sur les marchés, mais l'info va encore plus vite. Après, il faut faire très attention à la présomption d'innocence. Et comme disait mon collègue, ouais, c'est important parce que ce genre de choses, ça détruit une vie, ça détruit aussi une famille, ça peut détruire tout le monde. Mais c'est très bien qu'on puisse aujourd'hui réagir, et c'est très bien que des femmes aient ce courage pour le dénoncer. Laissons faire la justice. Et j'allais dire un peu quelque chose.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque la domination sexuelle aussi?
Alors, on a vu par exemple dans le domaine du sport. Aujourd'hui, il y a beaucoup de footballeurs qui ont eu. Il y a quand même un cas en Grande-Bretagne qu'on connaît, hein, d'un joueur français dont la carrière a été brisée, où les plaignantes ont tous reconnu qu'elles avaient en fait menti, mais une vie derrière est détruite. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent. Quand on est médiatisé aussi, il faut se dire que ce qu'on a fait dans le passé peut ressortir, hein. Et aujourd'hui, il n'y a plus de passé caché avec les réseaux sociaux, avec les médias, etc. Tout se sait, on peut vous retrouver, on peut vous scanner ce que vous avez écrit, ce que vous avez dit, vos comportements. Après, pour aussi avoir une fille, des sœurs et une épouse, c'est très bien aussi que les femmes puissent aujourd'hui dénoncer ces pratiques. Pour travailler dans un grand groupe et avoir travaillé dans des grands groupes, on sait tous qu'il y a des choses qui se passent. Tu parlais du monde médical, bien sûr que c'est connu. J'ai pas mal de familles dans le milieu médical, et il faut protéger tout le monde d'ailleurs, hein,
parce les mains baladeuses.
J'ai appris aujourd'hui que ça existait aussi du côté masculin.
Allez, parlons-en justement. 01 53 48 3000. Venez, vous, mesdames, ou messieurs aussi, hein, témoigner et nous faire part, évidemment, si vous connaissez, si vous avez eu affaire à ce type de violence. Parce que c'est de la violence, ça, effectivement.
Ben, c'est de la violence grave.
C'est de la violence très grave. Hassan? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan?
Bah, écoutez, comme mes collègues, je dirais.
Patrick Pelou, l'urgentiste, le grand qui faisait.
Non, mais je dirais que je pense pas qu'il y en ait plus qu'avant, et puis qu'il y ait un effet de loupe. Donc, je pense que c'est une bonne chose que les femmes dénoncent ce type de comportement.
Mérina, qu'est-ce que vous en pensez, comme vous êtes la jeune femme seule parmi nous? Je vais ouvrir le micro et je voudrais vous entendre.
Oui, ouais. Eh bien moi je ne suis pas surprise. C'est vraiment un phénomène qui touche de nombreux domaines dans la société. Il y a quelques années, on a eu Sciences Po. C'est dans tous les établissements, c'est dans énormément d'institutions, élite ou pas. Et je trouve que c'est une très bonne chose que la parole s'ouvre. Et certes,
dans ces milieux-là, les jeunes femmes, elles n'osent pas souvent. Elles ont peur.
Ça change. Hein.
Mais maintenant, elles osent. Et elles sont
nombreuses dans ce milieu.
Là, elles sont nombreuses.
Elles sont très nombreuses. Ouais.
Elles osent, et je trouve que c'est une excellente chose. Après, certes, il y a des vies qui sont détruites à cause de ces accusations. Certes, mais il faut savoir qu'il y a très peu de violeurs qui sont condamnés. Encore une fois, donc certes, il y a la présomption d'innocence. Mais encore une fois, il y a très peu de condamnations pour viol. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on s'empare du sujet.
Ouais, mais effectivement, il faut en parler, il faut s'emparer, et il faut ne pas hésiter en permanence à dénoncer ce genre de pratique. Vous savez quoi? On va parler de trafic de stupéfiants. C'est la maire d'Avallon, en Bourgogne, qui a été mise en examen et placée en détention provisoire. Pourquoi ça vous fait sourire, monsieur Gamalabina? Arrêtez. On vient de parler de présomption d'innocence, et lui, il lâche un sourire normal, quoi. Le tribunal judiciaire d'Auxerre précise que 4 autres personnes ont été placées en détention provisoire. Vous savez, ce qui m'a surpris, c'est la découverte. Ça fait beaucoup quand même pour une mère. 70 kilos de cannabis.
Bah oui, quand même.
1 kilo de cocaïne.
De l'or, enfin c'est vrai.
Des lingots d'or.
20 lingots d'or.
Et de l'espèce. 7 000 euros en espèce. Beaucoup quand même.
Un petit peu.
20 lingots d'or.
Non, on parle pas de 7 000.
Ça vaut 70 euros le lingot.
Excusez-moi, on parle. Non, c'est pas 7 000. On parle de
70 000. Pardon, oui,
non, 2 lingots d'or. 2 lingots d'or pour le moment trouvé. 2 lingots d'or. 2. 2 lingots d'or et des milliers d'euros.
Mais quand même.
7 000 euros.
Ça fait beaucoup. Gamal Abina. Mais normalement, c'est l'exemplarité quand on
est
maire.
Un petit peu, mais ça fait 140 000 plus 7 000, 147 000 euros. Je parle même pas du coût de la drogue, mais c'est quand même extraordinaire. Ça ressemble presque à une blague, cette histoire. Franchement, soit elle n'est pas maligne, soit elle n'était pas au courant, c'est possible aussi, hein, la présomption dont on parle. Mais quand même, l'exemplarité. Il y a quand même un minimum syndical. On sait ce qui se passe à la maison, quand même. Là, ça ressemble un peu à du recel ou à une facilitation, mais c'est quand même assez honteux de sa part.
C'est quoi, elle faisait office de stock ?
Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de receleurs qui passent par des gens qui sont des notables. Ça arrive, hein, ce n'est pas une surprise.
Oui, bon. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Moi, je trouve que l'affaire est un peu bizarre. C'est-à-dire que, bon, c'est une dame qui est maire d'une commune, donc qui a quand même quelqu'un d'assez respectable. Bon, c'est vrai qu'elle a deux frères qui étaient déjà délinquants, mais qui ont fait de la prison. Et je crois que la mère, donc le juge a décidé donc d'incarcérer la mère sur le principe qu'elle était propriétaire du logement dans lequel ses frères habitaient. Oui. Donc elle ne pouvait pas savoir ce qui s'y passait.
Attention, donc, Hassan, parce qu'elle dit, vous savez quoi, juste, c'est important ce que je vais vous dire. Elle dit, j'acte sa mise en retrait de notre groupe politique. T'as ajouté dans un communiqué, tout en appelant au respect de sa personne qui fait l'objet d'une campagne haineuse sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce qu'en ce moment, vous savez quoi, il y a une haine comme pas possible ces derniers jours-là, et souvent basée, vous savez, sur quoi ?
Sur l'origine, oui, mais
ça, je trouve pas ça normal. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appelle Jamila et.
Une origine algérienne.
Mais qu'elle soit algérienne ou pas.
C'est le
c'est pas le propos.
Faut être très prudent dans l'affaire parce que ses frères.
Pourquoi quand c'est un autre politicien, est-ce qu'on le renvoie à ses origines ?
Les frères de la mère étaient des gens, bon, des délinquants, bon, qui étaient dans le trafic de stupéfiants. Donc ils ont caché de la drogue, de la marchandise, comme on dit vulgairement.
Auprès de leur sœur, c'est ça que vous voulez dire ?
Chez là où ils logeaient, c'est-à-dire. Mais la juge d'instruction a estimé que dans la mesure où la mère était au courant. Elle n'était pas au courant.
Pour vous, c'est ouais. Vous. Alors,
moi, j'en suis archi sûr à 99%.
99%
qu'elle n'était pas au courant. Donc, c'est les frères qui ont abusé de la confiance de leur sœur. Et maintenant, bon, l'impact politique de cette histoire, c'est qu'au fond,
ça va l'entacher, la pauvre.
C'est qu'une fille, une dame d'origine maghrébine, d'accord. On se dit, ces gens-là sont pas clairs. Il y a de la duplicité. Donc, il y a une forme de stigmatisation, de criminalisation.
Je vous cache pas, c'est ça qui m'agace. Vous savez, j'ai lu sur les réseaux sociaux. Voilà.
Il va falloir prouver. Et à mon avis, je ne sais pas si le dossier est solide, que la mère était partie prenante, qui était impliquée. Était au courant. Donc je pense que ses frères, excusez-moi de l'expression, ont foutu leur sœur dans la merde. D'accord. Et c'est le cas de beaucoup de gens dans les banlieues. Vous avez des familles, prenons le cas de Rachida Dati par exemple, elle avait des frères qui étaient des délinquants. Mais on a toujours dit que bon, les filles, en fin de compte, dans une famille maghrébine, en règle générale, subissent toujours une forme de subordination
au
patriarcal. Un système patriarcal où les garçons ont toujours une forme de domination sur leurs sœurs. Et donc on dit toujours, la fille, elle n'a rien à voir, c'est excusable. Mais généralement, lorsque dans une famille, vous avez deux ou trois gars qui sont délinquants et que les frères sont aussi qui ne le sont pas, on a tendance à criminaliser. Et là, ce qui est quand même suspect dans cette histoire, c'est qu'il n'y a aucune preuve que cette mère avait à voir dans cette affaire, mais la juge d'instruction partie du principe, partie du principe que dans la mesure où elle était propriétaire du logement, donc elle devait être au courant.
Alors attention, un des frères a reconnu les faits.
Oui, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que les frères n'avaient rien à voir. Ouais. Je dis simplement que les frères ont à voir, c'est une certitude. Mais
ils ont
mis leur sœur dans une situation difficile.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on renvoie toujours aux origines. Regardez-les, on pointe du doigt, regardez-les encore toujours les mêmes. On marque une pause et on revient en parler.
C'est une bonne guerre.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés, 19h36, précisément avec Gamal Abina, avec Hassan Membarek, avec Paul Antoine et enfin avec Karim Alouache. On faisait un tour de table, Paul Antoine, justement, vous savez que la drogue a été stockée à l'insu de la mère, affirme son frère. Hein. C'est évidemment une info.
La mère M-A-I-R-E.
Absolument, qu'il ne faut pas négliger. Voilà, Paul Antoine. Sauf que moi, ok, pas de problème. Il se dédouane, il dit voilà, elle n'était pas au courant, pas de problème. Mais Le problème, c'est qu'elle est, elle est entachée, cette pauvre mère.
C'est le cœur de l'enquête.
Et on la renvoie à ses origines, encore une fois.
Non, mais bon, c'est inadmissible. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est inadmissible.
Oui, mais
ça
bon.
Arrive, et puis voilà, c'est malheureux. Je crois que c'est le cœur de l'enquête, de savoir si elle était au courant ou pas. Moi, de ce que je pense, c'est que les deux frères se sont dit, la sœur et les mères, on va foutre notre cam chez elle, et forcément, les policiers n'iront pas fouiller. Les policiers, ils n'ont rien à foutre. Ils font une enquête, et s'il faut qu'ils fouillent, ils fouillent. Et je pense que ils ont pas compris que le fait qu'elle soit mère, ça changeait pas grand chose. C'était même pire, ça va être une circonstance aggravante contre elle. Donc moi je pense déjà, évidemment, sa vie politique, elle est morte. C'est la première magistrate de la ville, donc sa vie politique, elle est morte, ça c'est fini. Qu'elle soit innocente ou pas, elle peut dire au revoir à ça, à mon avis. On va voir si ses frères, au moins visiblement, il y en a un qui a l'honneur de reconnaître que c'est lui. Bon, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, il y a aussi une question de... Enfin, c'est une affaire qui pue un peu et qui est très gênante, parce que c'est quand même la maire d'une ville. Donc, c'est quand même gênant. Les policiers vont chez elle. J'imagine qu'ils ont quand même pris des pincettes un peu avant. Ils y sont pas allés par hasard. Ils perquisitionnent chez elle, parce que ça reste quand même sa maison. Ils tombent sur... c'est pas un gramme de cocaïne. Il y a quand même un kilo. Il y a des lingots d'or. Alors... Encore une fois, on n'a pas forcément encore toutes les bonnes infos. Je pense qu'il y a énormément de rumeurs qui circulent. On parlait de 20 lingots d'or, visiblement c'est deux. Donc je pense qu'il faut se méfier un peu de tout ça. Mais bon, globalement, ses frères, pour avoir fait 10 ans de prison, c'est que c'est pas du petit délinquant. Donc oui, je pense qu'elle a dû se laisser dépasser. Et que maintenant, à cause de ses deux frères, elle va se retrouver sans rien, quoi. Et c'est terrible.
Karim Alouache, ouais.
D'abord, il faut faire très très attention avec l'information.
En plus, elle est très appréciée. En plus,
parce qu'on en a parlé autour de la table en 48 heures ou 72 heures. La foi, elle a pas arrêté de changer. Au départ, c'était on l'a découvert dans son bureau en mairie. Après, c'est chez elle. Maintenant, c'est dans l'appartement où vivent ses frères. C'est récent que l'affaire des deux frères soit sortie. Hein. Au départ, c'était entre guillemets elle.
Exactement. Voilà. Oui.
Là, quant à la stigmatisation, moi, je suis même plus étonné parce que de toute façon, quand t'es franco-maghrébin dans ce pays, t'avances avec deux poids de 20 kilos dans chaque main, surtout. C'est-à-dire que quand tu dois monter, ça pèse plus lourd, et quand on doit te taper dessus, tu prends le poids au travers de la figure. Malheureusement, c'est comme ça. Quelles sont les conséquences derrière, qu'elle soit même si elle est de bonne foi? Sa carrière politique, elle est terminée. Être maire, c'est pas rien. Il y a aussi une question de confiance. Alors, ça peut faire sourire, parce que il y a des maires qu'on en fait quand même des gros. Hein. On va parler de Levallois ou autre, hein, quand même. Hein. Mais il y a l'image du trafic de stupéfiants qui est très grave, et ce qui est vraiment, aggravant.
Et qui est une priorité
donc, soyons prudents. J'ai cru comprendre qu'elle était en détention, maintenant. Imaginez, à vivre, c'est quand même aussi quelque part une mère de famille et autres. Et le dernier point, est-ce que les frères se sont dit bon, elle est mère, on risque rien. Alors j'ai pas tout à fait compris. Est-ce que eux vivent dans un appartement dans lequel elle vit, ou est-ce qu'eux vivent dans un appartement dans lequel elle ne vit pas?
Non, elle ne vit pas. Elle est propriétaire.
Voilà. Donc effectivement,
elle est propriétaire de l'appartement, elle ne vit pas avec ses frères.
A priori, si elle avait fait payer un loyer qu'elle le louait, elle aurait été disculpée de tout. Ça va être très compliqué. Gardons quand même la présomption d'innocence. Je pense que s'il n'y a pas de notion d'enrichissement, s'il n'y a pas de changement de train de vie, s'il n'y a pas de mouvement financier qui pourrait ou autre trace, j'espère pour elle qu'elle sera disculpée, pour se relever de ça après dans le monde politique.
La carrière, c'est fini politique, la carrière politique. Elle peut dire au revoir.
Ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Rien qu'à voir ce qu'elle prend en ce moment sur les réseaux sociaux.
Elle prend cher.
Les réseaux sociaux.
Vous connaissez l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu, malheureusement. Hein.
Les réseaux sociaux, c'est un peu différent. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, quelqu'un qui est à Lyon peut réagir à quelqu'un, à quelque chose qui se passe dans un village dans le nord. Donc, les réseaux sociaux, c'est pas eux qui votent. Et comme vous le disiez, elle est quand même appréciée. Il y a aussi une question d'électorat. Il y a une question de gens qui sont locaux et qui votent. La grande différence, à mon avis, avec on pense un peu aux Balkany, c'est que là, il y a quand même trafic de drogue derrière. C'est pas pareil que des petites magouilles de détournement, etc. Ça, bon, quand vous gérez bien votre mairie, je pense qu'il y a une question de confiance. Trafic de drogue, c'est grand banditisme et tout ça. Je pense que là, les gens, ils vont avoir beaucoup. Enfin, la confiance est vraiment rompue. Donc, je pense que ça va être très, très difficile.
La confiance est cassée. C'est vrai.
On est dans un contexte.
Hassan Benbarak.
On est dans un contexte actuellement où le gouvernement fait de la lutte contre le trafic de drogue une priorité.
Ouais, les opérations placées.
Mais bon, s'il y avait des gens à les regarder, ce serait plutôt du côté des policiers, quoi. Parce qu'il y a quand même de sacrées dérives. Et on touche pas.
Affaire, là, en ce moment, hein.
Ouais, mais on touche pas à certains corps constitués. Bon, une petite mère. Beurette de surpoids, bon, ça peut...
Non, mais l'IGPN, elle est sur une affaire, là.
Oui, ouais. Ça peut créer. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des grosses affaires, je veux dire, de très, très gros poissons, qui se retrouvaient dans des affaires qui concernaient plusieurs tonnes de drogue, et les types n'ont jamais été condamnés. Donc, je dis simplement que lorsqu'il y a ceux qui sont en charge.
Le commissaire de Lyon, je crois.
Oui, il y a une affaire. Bon, lorsque ceux qui sont en charge, certains, de lutter contre le trafic de drogue, et bon, il y a des choses qui ne sont pas très claires dans ce pays. Surtout que, bon, le trafic de drogue, c'est quand même 3 milliards d'euros. De chiffre d'affaires, d'accord. Ça représente pas loin de
3 milliards, c'est énorme.
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme.
L'INSEE,
3 milliards.
L'institut qui est en charge de la statistique a donc mis dans le PIB 2,7 milliards. Donc c'est une richesse, hein, ça produit une richesse. Donc forcément, on voit bien. Bon, moi qui suis né dans ce quartier il y a plus de 40 ans, hein, et plus de 5. Donc moi, c'est-à-dire que je suis sur le terrain depuis 40 ans. Et j'ai vu d'une façon concrète sur le terrain que la population des consommateurs n'a eu de cesse que d'augmenter. Donc il y a un marché qui est énorme.
C'est colossal, quoi.
Oui, c'est colossal. Donc si et donc je pense qu'il y a pas mal de gens, qui ont des intérêts, des gens assez bien placés. On peut pas faire autant de choses aussi importantes sans qu'il y ait des connivences à la fois politiques et dans les administrations. C'est pas possible. Donc là. Bon, on a arrêté cette mère avec ses deux frères qui étaient des délinquants, en tout cas des trafiquants notoires. Mais il va falloir prouver qu'elle a vraiment à voir, qu'elle est dans.
Ça va être costaud.
Ça va être difficile un peu de prouver qu'elle a à voir.
Je voulais rebondir sur.
Mais 3 milliards, effectivement.
Sur ce qu'a dit mon collègue, il y a une chose qui est très vraie. Et je pense qu'on n'en prend pas assez conscience. Il y a une vraie économie qui s'est développée. Dans les quartiers avec le trafic, une véritable économie. C'est-à-dire, moi, quand j'étais mon premier mandat de conseiller municipal à Bondy, ce qui m'étonnait à chaque conseil, c'est que tu avais une série de délibérations sur les remises gracieuses des loyers impayés. Et au fur et à mesure de mon mandat, cette liste baissait tout le temps. Aujourd'hui, j'en vois plus du tout. Il y a plus de loyers. J'ai dit, mais il n'y a plus de loyers impayés, les bailleurs sociaux, il n'y a plus de problème. Et c'est ça le danger. C'est qu'aujourd'hui, on est quelque part, de manière intuitive, en train d'intégrer cette économie et dans le traitement de la vie de tous les jours.
Mais c'est pas
parce que je vais vous donner un exemple tout bête. Il faut être vraiment terre à terre, mais c'est une réalité. Et il ne faut pas l'occulter. Un gamin de 15-16 ans qui prend 2-3 000 euros par mois en faisant le guet, comme ils disent, le chouf, etc., et qui, derrière, va payer le loyer à 500 euros ou 400 euros de la famille, c'est un loyer qui est payé. Alors, je ne dis pas que les parents sont malhonnêtes et qui ferment les yeux, mais c'est une réalité qui s'est installée. Moi, j'ai juste fait ce constat.
Hein. Oui.
Et tout le monde a un rôle, y compris les bailleurs sociaux.
Gamma Labina, et ensuite, on passe à ce
après,
sujet.
Après, il y a un nouveau phénomène. Sur
roman sur Isère.
Sur l'histoire de la drogue, l'économie parallèle, elle a toujours existé, mais il y a aussi le fait...
Elle s'amplifie, selon
oui,
ça.
Oui,
elle prend de l'ampleur.
J'en suis pas certain, mais ce qui est sûr, c'est que le phénomène Uber...
Bah, aussi, je veux bien croire, il y a plus de consommateurs.
Elle est structurée.
Non, je ne pense pas qu'il y ait plus de consommateurs. Je pense que c'est plus documenté. La drogue a toujours été, à l'époque de la French Connection, c'était l'explosion, il y avait des laboratoires en Corse.
Moins de consommateurs, quand même.
Non, c'est pas vrai. C'est pas, c'était pire. En 70, il y avait ce qu'on appelait le Flower Power, tout le monde se droguait, c'était fun de prendre du shit.
Gens qui consomment et beaucoup.
Non, là, le shit, on parle du shit, c'est du shit depuis le début. Ah oui. Ces phénomènes ont toujours existé. C'était à l'époque du reggae, c'était à l'époque de la culture asiatique. Cette idée, elle est là. Mais par contre, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est pas ça. C'est le fait qu'aujourd'hui, quand on parle de la mère, en l'occurrence, qui est une exemplarité obligatoire, elle tombe sous deux travers. Le premier, elle est accusée de deux choses graves. Du détournement d'argent, en l'occurrence, c'est des espèces quand même, donc il y a du trafic financier et du trafic de drogue. En général, les mères tombent plutôt pour les questions financières. Donc c'est vrai que là, se relever de ça, ça va être difficile. Mais j'ai envie de dire simplement, il faut faire très attention à ces accusations, parce que c'est vrai que c'était dit tout à l'heure, un coup c'est 20, un coup c'est 2, Lago, un coup c'est chez elle, un coup c'est chez ses frères. Donc c'est vrai qu'on l'a chargé de façon disproportionnée avec une information de journalistes qui ne font pas leur travail. Donc il faut faire très attention, et moi je parle de présomption d'innocence aussi bien pour Pelou que pour elle. Il faut rester en retrait de ça, parce que le tribunal populaire, c'était dit tout à l'heure par Paul Antoine, n'est pas là pour juger. Il y a une justice, il y a des enquêteurs, et on tranche à la fin. Donc faire attention, parce que sur le phénomène MeToo, c'est pareil. Beaucoup de gens ont été accusés et beaucoup de gens ont été relaxés.
On va juste passer, parce que je veux absolument qu'on parle, vous savez quoi, direction Roman sur Isère, le père de l'adolescente 15 ans, vous savez, qui a été tué mardi dernier à Roman sur Isère dans la Drôme. Et franchement, moi, ce qui m'a bouleversé, c'est le témoignage du père qui qui dit clairement, voilà, mon fils n'avait rien à voir avec tout ça. Il se retrouve, c'est Driss qui parle au micro d'RTL, et il voulait les séparer, les personnes impliquées dans cette altercation. Franchement, la violence aujourd'hui, quand je vois ce gamin de 15 ans, et la tournure des événements notamment, hein, c'est en voulant simplement s'interposer. Qui veut prendre la parole ? C'est terrible. Hassan, vous, justement, les quartiers populaires, vous les connaissez, mais surtout cette violence.
Parce que tout le monde a une connaissance.
Ouais, mais surtout, populaire, surtout.
Mais ce que j'observe.
Juste parce qu'ils voulaient s'interposer.
Parce que je fais un parallèle avec la violence il y a une vingtaine ou une trentaine d'années dans ces quartiers.
C'est donc, il ne faut pas s'interposer, quoi.
Non, c'est que la violence dans les quartiers.
Drame. Coup de couteau.
Non, il y a quelques décennies. Il y avait des logiques, vous aviez des groupes, des équipes qui avaient des activités criminelles, mais il y avait des codes. On n'utilisait pas la violence, c'était le dernier recours. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une violence un peu gratuite, d'accord, mais qui provient de gamins, de gamins de 15 ans, 16 ans. Et on a l'impression que les réseaux sociaux, cette culture du hip-hop, ce rap, là où il y a une forme de dégradation des valeurs, tout ça, ça a joué. Les types se prennent pour des pour des shows, voilà, je me laisse pas faire, et ainsi de suite. Et donc, ça fait de la violence.
C'est
et
pas
on
faux,
a pas
ça,
mal,
c'est pas faux.
Et on a pas mal de jeunes. Bon, moi, j'en vois des jeunes de 14-15 ans. J'en ai connu deux qui sont morts comme ça pour des risques entre quartiers, de quartier à quartier. J'étais même intervenu à une époque pour empêcher ce genre de choses, et d'une façon assez, assez dure, parce qu'ils comprennent que ça. Mais aujourd'hui, on voit pas mal de jeunes de 14, 15 ans, 16 ans, essentiellement dans ces banlieues, dans ces quartiers, d'accord, ça ne va pas s'arranger. Voilà. Mmh. Ça ne va pas du tout s'arranger. Et je crois que les pouvoirs publics ont aussi leur part de responsabilité dans cette histoire. C'est-à-dire, alors j'essaie de m'expliquer, c'est que lorsqu'on rentre dans la gestion même des familles, avant, il y avait le père qui avait de l'autorité. D'accord, le père il disait à son fils, tu sors pas. Tu restes là, tu fais tes devoirs. Et que maintenant, vous avez des gamins de 14-15 ans qui disent à leurs parents ou à leur père, j'en ai rien à faire, je t'écoute pas, tu sers à rien, tu rapportes rien.
Vous êtes en train de dire qu'il y a un manque d'autorité.
Voilà, il y a un manque d'autorité. Et on peut pas d'un côté
ça suffit,
dire...
franchement.
Voilà, ouais.
Ça suffit.
Non, ouais. Ça suffit.
Oui, non, mais il a
attendez, on fait un tour de table. Justement, on fait un tour de table. Gamal Abina. Gamal Abina, Karim Alouach, c'est un sujet épineux. Hein.
Je sais que ce sujet-là revient tout le temps. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée selon laquelle il y aurait une augmentation des violences et de la délinquance. C'est faux. Les statistiques sont très claires. Il y a un recul. Il y a le nombre d'homicides a diminué par deux en 20 ans. Par contre, il y a 30 ans, moi, j'ai pris deux coups de couteau parce que je séparais un type qui voulait agresser un gars que je connaissais.
Comme là, ici, à
Rome. Voilà, j'ai pris les coups de couteau.
C'est un adolescent de 15 ans.
Par un type qui était un
délinquant
notoire.
Mortel.
Tout à fait, notoire, délinquant notoire.
Donc, ça aurait pu être mortel pour vous.
Tout à fait, ça a failli l'être. J'ai pris 24 points de suture.
Vous avez rendez-vous.
Donc, ce que je veux dire, c'est que cette violence endémique a toujours existé. J'ai envie de dire, une fois, j'ai dit à la télévision, on m'a pris pour un imbécile. J'ai dit, à l'époque des blousons noirs, il y avait de la violence. Alors, maintenant, on croit que les blousons noirs, c'était des romantiques. Pas du tout, hein. C'était chaîne et couteau. On oublie ces périodes-là. C'est-à-dire que le phénomène de pauvreté, de marginalisation et de délinquance est entretenu. On se rappelle des films, par exemple, quand on se rappelle des films de Marlon Brando. La délinquance était très très forte. La problématique de la délinquance ne se pose pas en termes d'augmentation. Elle se pose en termes d'accélération par rapport à une paupérisation. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une paupérisation qui a grandi et qui va augmenter ce phénomène-là. Mais là, aujourd'hui, je parle sur 20 ans, il y a un recul. Ouais. Donc le phénomène de miroir déformant.
Sauf qu'avant, c'était pas gratuit. Comme
non,
disait Hassan.
Non,
c'était d'imposer aussi sa force.
D'accord, donc
on est dans le reptilien.
Mais à l'époque, vous aviez deux jeunes, par exemple, vous aviez des bandes dans les quartiers. Bon, c'était quoi le mode opératoire? Bon, il y en a un qui était pas d'accord avec l'autre. Il dit, bah voilà, si t'es un homme, tu viens, on s'explique tête à tête.
Non, c'est pas
et
vrai.
Aujourd'hui,
Je
parle dans les quartiers et lorsqu'il y avait des contentions.
Attends,
lorsqu'il y avait des contentions entre les jeunes, ils étaient pas contents, tête à tête, on s'explique comme des hommes. Même si les gens étaient armés et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont pas des voyous, qui sont pas des délinquants, qui passent leur temps à écouter du rap et qui sont sur les réseaux sociaux et qui pensent qu'ils sont des méchants. Et ça donne quoi? Ça donne de l'hyperviolence. C'est-à-dire que vous avez des gars qui vont aller massacrer, comme la dernière fois, trois gars cagoulés, qui se prennent, je sais pas, comme s'ils avaient fait un braquage, trois gars cagoulés qui vont massacrer à coup de barre un gamin de 15 ans, de 16 ans.
15 ans.
Donc c'est disproportionné. Disproportionné.
Ouais, bah, complètement. Ouais,
Karim Alouach, aussi, Gamal, comme il dit.
Il nous reste 3 minutes.
Statistiquement, il n'y a pas plus.
Alors, moi, je vous dis une chose. et je pense que moi je suis né, j'ai grandi dans une cité d'Aubervilliers. Il y avait d'abord pas cette forme de violence haineuse. Ouais. Quand quelqu'un s'en prenait une et qui tombait, ça s'arrêtait en général et c'était même pas fréquent. Il se passait des choses à l'extérieur, mais à l'intérieur du quartier. Je me sentais en sécurité. Ouais, ce qui est plus qu'un aujourd'hui.
C'était ça.
Ce qui a changé, et vous avez raison, dans le cas dont on parle, c'est, j'ai cru comprendre, il y a une personne de 27 ans et que le gamin a été tué avec un coup de couteau dans le dos. Mmh. D'accord ? Moi, j'ai connu à Bondy le gamin qui a été tué par balle parce qu'il a mis une trempe au petit frère d'un gars dans un combat, dans un club. Pas dans la rue, dans un club de sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont perdu toute notion de vie ou de mort.
Ouais.
Ça devient presque de la psychiatrie.
Merci de le rappeler.
On peut ôter la vie à quelqu'un comme ça pour rien.
Mais vous savez le mode opératoire.
Et c'est ça qui fait peur.
Non, mais ce qui est marrant dans ce que vous dites là, ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est que ces gens-là qui se prennent pour des chauds, des durs, ou qui veulent donner cette image dans leur quartier, le jour où ils se retrouvent dans ce type d'affaires, ils pleurnichent en prison.
Oui, c'est clair.
Ils pleurnichent, n'assument pas leurs actes. Alors que les gens qui sont ce qu'on appellerait des caïds ou des gens assez costauds qui font dans des banlieues, assument totalement leurs actes. Lorsqu'ils se retrouvent en prison, ils assument. Eux n'assument pas parce qu'ils se disent voilà.
Non, parce qu'ils ont plus cette notion de vie.
Alors, est-ce que je voudrais dire à tous ces jeunes-là et à tous ces rappeurs-là, bon, puisque le fond du problème.
Faut que je rende l'antenne, hein. Faut que je rende l'antenne parce que sinon, là, j'ai pas entendu Paul-Antoine.
Voilà.
Allez-y, Paul-Antoine.
Moi, je suis d'accord avec certaines choses qui ont été dites, pas d'accord avec d'autres. Je pense qu'il y a quand même plus de violence. Pour moi, globalement, je suis d'accord avec le constat qu'il y a une violence différente, une violence gratuite. Maintenant, on est en France, il y a des lois. Donc, ce que je comprends pas, c'est que Romans-sur-Isère, on en a parlé il y a 6 mois à peu près, les mecs qui ont tué Thomas, ils sont pas en prison. Donc moi, c'est très simple maintenant, il y a 4 quarts de CRS qui arrivent demain, tous les gamins, ils sont fouillés, parce que c'est pareil, on parle de gamins, quand vous donnez un coup de couteau, vous êtes pas un gamin. Quand vous donnez un coup de couteau, vous allez en prison pendant 15 ans, et j'en ai rien à foutre, le mec, il va pleurer tous les jours, il va en tôle, et là, vous allez balancer une clochette, il y a eu un attentat en Russie, ils ont chopé les mecs en 24 heures, il y en a un qui s'est fait couper l'oreille. Je dis pas que c'est bien, mais en 24 heures, c'était plié. Donc maintenant, la justice, elle fait son travail, parce que nous, on paye des impôts, je sais pas où ça va, les impôts.
C'est le fils militaire qui parle.
Non, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a des gamins, Romans-sur-Isère, enfin, c'est pas Marseille, c'est une toute petite ville.
C'est une toute petite ville.
On en a parlé il y a 6 mois, là, on en reparle, dans 6 mois, on en reparle, et je suis venu il y a 2 semaines sur votre antenne. On parlait de Rennes. On parlait de Rennes, ce sera quoi demain ? Ce sera
ça. Bah écoutez, merci infiniment. Le sujet continue. Oui, oui. Merci Karim Alouache, merci à Paul-Antoine.
Merci. C'est
très bien, j'ai béni. Vite, rapide.
Donc je vais lui souhaiter.
Ah oui, votre maman, mais vite. Elle vous écoute ou moi ?
Bon anniversaire, Marc.
Elle vous écoute ou moi, j'espère ?
Ah bah toujours.
Eh ben voilà. Eh ben on lui souhaite un bon anniversaire, madame Alouache. Voilà. Heureux anniversaire. Profitez-en bien et bonne fête. Hassan, à très vite. Ben Marek. Gamal Abina, à très vite. À vite, Myrina.
À bientôt.
À bientôt, absolument. Notre jeune étudiante, Sciences Po.
Oui, exactement.
Solalou, à demain. Ah, ça y est, ouais, effectivement, à la réalisation. C'est Bill Annenman qui prend tout de suite le contrôle dans Time Sport. Ensuite, c'est Vanessa, à 21h, avec Confidence. À demain, avec autant de plaisir. N'oubliez pas Kim, demain à 7h. À demain, avec autant de plaisir. Mais surtout, qu'est-ce qu'on dit ici ?
On lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.